Radio Okapi.
Journal présenté par Belinda Bosuma.
Jeu de pouvoir, pouvoir du jeu, football et politique en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé d'un rapport qui sera publié aujourd'hui à Kinshasa, réalisé notamment par le groupe d'études sur le Congo. Ce rapport met l'accent sur la façon dont le monde politique influe sur le monde du sport en RDC. Révision du fichier électoral, 15 jours ajoutés par la CENI pour l'enrôlement des électeurs dans le Nord Kivu, jugé insuffisant par la société civile Coordination Urbaine de Beni. Cette structure citoyenne demande à la CENI d'évaluer la situation vu les défis sécuritaires et techniques et donner un délai d'ajout convenable. Madame, Messieurs, bonjour. Un rapport qui met l'accent sur la façon dont le monde politique influe sur la vie des clubs sportifs ou sur le monde du sport en République démocratique du Congo. Il sera publié ce vendredi au Centre culturel Boboto à Kinshasa, intitulé « Jeu des pouvoirs, pouvoir du jeu, football et politique en République démocratique du Congo ». Ce rapport est réalisé par le groupe d'études sur le Congo GEC et Ebouteli, les clubs de football, bien qu'ils ne soient pas un modèle de la démocratie, peuvent servir de leçon pour la création de futures organisations plus démocratiques en RDC, affirment ces chercheurs. Blaise Makassi a lu ce rapport. Voici son condensé rendu ici par Pascal Masirika.
Loin d'être seulement un jeu, le football est une extension de l'arène politique. Hommes et femmes politiques s'y mêlent en cherchant à devenir président de club avec l'espoir de trouver ou renforcer des bases électorales à travers une popularité sportive, indique le rapport. En même temps, poursuit-il, le pouvoir cherche à contrôler les grandes équipes afin de s'en servir pour des fins politiques. Le rapport note également que le football est influencé par la politique en RDC. Il s'appuie sur le refus de certains clubs de livrer les matchs de la CAF au stade Mazembe, préférant livrer les rencontres à l'étranger. Le club de football fonctionne à l'aide des ressources de leurs dirigeants. La politique et le sport sont entremêlés à travers la présence des hommes et des femmes politiques à la tête des clubs. Selon Jek et Ebouteli, je les cite, au cœur de cette relation se trouve un jeu de pouvoir. D'un côté, la recherche par les politiques d'une base ou d'un électorat en essayant de convertir la notoriété liée au sport en popularité politique et de l'autre, des tentatives par le régime en place d'utiliser des publics sportifs pour des fins politiques.
Et hier jeudi, à la veille de la publication de ce rapport, un groupe des journalistes a été briefé sur son contenu. On écoute à ce sujet Joshua Walker, directeur des programmes et analyste du groupe d'études sur le Congo. Il est au micro de Vanessa Nkongolo.
Nous avons décidé de faire ce rapport dans le cadre d'une série de rapports que nous avons publiés pour un projet qui s'appelle Mukaleng Wa Bantu, qui est focalisé sur des questions de redevabilité en RDC. Alors, nous avons déjà sorti des rapports sur des partis politiques, sur les élections et sur l'Église catholique. Et nous avons voulu un peu sortir de l'ordinaire en essayant de comprendre les formes de redevabilité, mais aussi de politisation au sein des clubs de football et par la suite les comparer avec le fonctionnement des partis politiques. Bon, ce que nous avons constaté, c'est que la différence, par exemple, des partis politiques, les présidents des clubs de football sont souvent peut-être soumis à des types de sanctions de la base, que ce soit des supporters, des fanatiques, que l'on ne voit pas nécessairement dans les partis politiques.
Et puis, députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple depuis le mercredi 15 mars. Mais quelles sont les priorités de cette session? Le Parlement devrait effectuer son travail de contrôle de l'exécutif sans complaisance pour pousser le gouvernement à relever les défis économiques, politiques, sécuritaires. C'est ce qu'a affirmé la sénatrice Francine Muyumba qui veut voir, dit-elle, le Parlement s'attaquer prioritairement aux problèmes touchant le quotidien des Congolais. À l'Assemblée nationale, le député Jean-Baptiste Muindo Kasekwa estime que la priorité des priorités de cette session doit être l'évaluation des opérations militaires dans le Nord Kivu et l'Ituri sous état de siège, mais aussi dans le Maïndombe. Plus de détails avec Michel Kifindangoy.
D'après l'élu du Nord Kivu, l'examen du retrait de la RDC de l'EAC ainsi que l'évaluation des opérations des forces armées devraient être les deux priorités principales pour cette session. Jean-Baptiste Muindo Kasweka.
La priorité des priorités de cette session consiste d'abord à faire une évaluation sans complaisance des raisons pour lesquelles les FARDC ont abandonné successivement plusieurs agglomérations au mai 2023. La deuxième priorité, c'est voter une résolution qui ordonne de l'EAC le retrait de notre pays.
Pour la sénatrice Francine Muyumba, le Parlement ne devrait pas se laisser caporaliser. Il doit donc jouer un rôle efficace de contrôle pour faire face à la crise sécuritaire, mais aussi économique et sociale. Francine Muyumba.
Oui, et comme vous le savez, le produit des premières nécessités ont vu les prix doubler, si pas tripler sur l'ensemble du territoire national. À Mumbashu, je me trouve actuellement, je ne peux que vous dire qu'un sac de farine de maïs est passé de 28 000 francs à 70 000 francs.
Il reste donc aux deux bureaux des deux chambres du Parlement de proposer un calendrier des matières qui tiendra compte des différentes priorités des élus.
Par ailleurs, le député provincial Patrick Thierry-André Kakwata, président du parti Mouvement des réformateurs libéraux, MRL, décide de faire de la lutte contre la cherté de la vie au Lualaba son cheval de bataille. Le leader du MRL l'a déclaré hier à l'issue d'une mini-congrès organisé à son siège à Kolwezi à l'occasion du 8e anniversaire de son parti hier 16 mars. Il reprend ainsi la tête de ce parti dont il s'était momentanément retiré pendant qu'il exerçait des fonctions de ministre provincial du Lualaba. Prenant ses activités politiques, il juge inacceptable la hausse du prix de la farine de maïs et la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, rendant ainsi la vie des habitants du Lualaba en particulier et des Congolais en général de plus en plus difficile. On écoute un extrait de son adresse à ses militants, propos recueillis par Jean Gando.
Aujourd'hui, je rentre en politique. J'ai récupéré la tête du parti comme président du MRL. Chers frères et sœurs, le prix de la farine de maïs augmente. Où allons-nous? Moi, Kakwata, vais-je me taire? Le statut du MRL met l'homme au centre de tout. Nous ne pouvons rien faire sans tenir compte de l'homme. Nous, MRL, luttons pour la promotion de la femme et de la jeunesse. Plusieurs personnes négligent le rôle de la femme, mais nous, au MRL, nous connaissons son importance. D'autres négligent les jeunes. Nous, nous savons les valoriser. La deuxième chose, c'est que le taux du dollar américain ne fait qu'augmenter. Où va-t-il s'arrêter? C'est pourquoi, aujourd'hui, moi, Kakwata, j'ai décidé de rompre le silence. Nous exigeons qu'on baisse le prix de la farine de maïs et les taux du dollar américain, sinon nous allons commencer à sanctionner.
Je vous l'ai dit dans les titres, la société civile Coordination Urbaine de Beni salue la décision de la CENI prolongeant les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs de 15 jours dans la province du Nord-Kivu, comme dans toute l'aire opérationnelle 3. Cependant, cette structure citoyenne estime que ce délai est insuffisant compte tenu des défis sécuritaires et techniques vécus en province. Ainsi, il demande aux responsables de la CENI de passer à une évaluation rapide de la situation générale de ces opérations et donner un délai d'ajout convenable. Maître Pépin Kavota, président de la société civile Coordination Urbaine de Beni, explique au micro de Marc Marofimbo.
Nous disons merci aux autorités de la CENI d'avoir ajouté 15 jours. Mais lorsque nous faisons la ronde dans la ville de Beni, nous pensons que les 15 jours ne seront pas aussi suffisants, considérant même les kits d'armement qui sont en train de tomber à panne du jour au lendemain. Et que donc il y a lieu de faire encore, n'est-ce pas, une évaluation rapide pour voir si les 15 jours vont suffire ou pas. Mais déjà en amont, la société civile présume que les 15 jours ne suffiront pas pour que toute la population de la ville de Beni soit arrôlé, compte tenu de tout ce qui est comme panne de matériel commis au niveau de la CENI à Ville de Beni. En augmentant les 15 jours, il faudra rajouter encore le kit d'enrôlement dans les centres d'enrôlement. Si vous allez par exemple à Mukulia, où il y avait 3 machines, aujourd'hui, il y avait une seule machine qui a fonctionné. Je reviens d'Endeke, un centre d'enrôlement qui a enrôlé beaucoup de monde. Mais déjà, une machine ce matin est tombée à panne. Il y a lieu non seulement d'augmenter les jours, mais aussi augmenter les kits de la CENI.
Pendant ce temps, le personnel de quelques centres d'enrôlement de la CENI à Goma menace d'aller en grève s'il n'est pas payé après un mois de prestations sans interruption. C'est confiant à Radio Kapi. Les membres du personnel dénoncent également les mauvaises conditions de travail depuis le début des opérations. Les organisations de la société civile, les mouvements citoyens ainsi que les groupes de pression comme le Comité laïque de coordination CLC craignent que cette situation n'impacte négativement le bon déroulement des opérations dans la province. Le consortium de ces structures demande à la CENI de répondre urgemment à ses devoirs pour garantir le bon déroulement des opérations. C'est comme l'explique le coordonnateur du réseau des analystes des relations internationales pour la région des Grands Lacs. Lavi Boilé est au micro de Gabriel Ouaménia.
Il y a mauvaise condition de traitement des agents commis au centre d'enrôlement de la CENI. Et ce qui les prédispose même à des corruptions. Parce que ce sont des cas qu'on observe et même c'est lamente par rapport à ça. Parmi les mauvaises conditions, nous trouvons, il manque même l'eau à boire. C'est lui qui passe toute une journée du matin au soir, sans pause, sans déplacement quelconque. Et même les manques d'alimentation, même de ses agents. Il y a aussi les manques de transport. Quelqu'un qui quitte Ndosho vers Mugunga pour aller enrôler les gens sans transport, sans même prévision de transport, ça a l'air en tout cas des mauvaises conditions de travail. Parce qu'il y a d'autres qui menacent même à démissionner. Or, ce n'est pas quelque chose de bien. Et cela peut l'air prédisposé même à des corruptions, chose qui n'est pas bon.
Contacté, le rapporteur de la CENI rassure, Paul Mouindo précise qu'il y a une évolution quant à ce, sans plus des détails. Et puis, Radio Okapi vous propose dès ce vendredi une série de reportages sur la province du Nord Ubangi et son chef-lieu, la ville de Gbadolité. Pour commencer, et selon les données de la division provinciale du plan, le Nord Ubangi couvre une superficie de 58 832 km² avec une population estimée à 2 558 268 habitants. Ces chiffres sont tirés des différents rapports de la ville et territoire en 2016. La carte postale de la province du Nord Ubangi avec vous, Daniel.
La province du Nord Ubangi compte quatre territoires, Businga au sud, Bosobolo à l'ouest, Mobayimbongo au nord et Yakoma à l'est, 11 secteurs, 126 groupements et 1202 villages. Avec un potentiel agricole estimé à 95% de terres propices à l'agriculture, le Nord Ubangi exporte annuellement au moins 600 000 tonnes de céréales vers la République centrafricaine avec laquelle il partage 2 km de frontières séparées par la rivière Ubangi. Les chutes de Nzombo, Wulu, Zulu, Satema et bien d'autres offre des espaces touristiques aux visiteurs. Le Nord Ubangi est également une province minière dont l'exploitation demeure jusque-là artisanale. On y trouve le diamant, le calcaire, le coltan, le cobalt, la cassitérite, l'or, le fer, le pétrole de la cuvette centrale et même l'uranium y est signalé. En termes d'infrastructures, elles sont toutes vétustes, la plupart datant de l'époque coloniale jamais réhabilitée. La RN24, par exemple, sa principale voie de communication est très fortement dégradée dans son tronçon de 140 km entre le port de Businga et le sud de Gbadolité. Il en est de même pour le tronçon nord qui part de Gbadolité à Yakoma, long de plus de 200 km. Le Nord Ubangi dispose d'un aéroport international sous-équipé et sous-exploité pour l'instant, situé au village Mouanda, dans la commune de Gbadolité.
Dans l'actualité aussi, l'inauguration hier à Kinshasa de la nouvelle ligne de la fibre optique CAB 5 Kinshasa-Mwanda. Selon le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, ce réseau permettra à la RDC d'accélérer la transition de l'économie numérique. Au cours de cette cérémonie, le directeur des opérations de la Banque mondiale a précisé que dans les 5 prochaines années, son institution va accroître son engagement dans ce secteur avec un projet de construction de la fibre optique le long de la route nationale numéro 2 entre Mbujimayi au Kasai oriental et Bunia en Ituri. Albert Zefak donne le rapport de 2022 de l'Union internationale de télécom au micro de Richard Junior Kamunga.
Malgré toutes ces avancées, le rapport 2022 de l'Union internationale des télécoms, IUT, sur le développement numérique, classe la RDC dans le groupe de pays les moins avancés en termes de connectivité et de tarifs des services de télécommunication. Et dans son dernier rapport, l'Observatoire des télécommunications, dirigé par l'autorité de régulation, RPTIC, en indique un taux de pénétration de l'Internet mobile de 23,77%, un des plus bas du continent. Nous apprécions tous l'immense besoin en investissement. Le secteur public ne pourra donc pas répondre tout seul à l'ensemble de ses besoins et le secteur privé doit prendre le relais sur certains aspects et apporter les investissements, l'expertise, l'innovation, l'efficacité et le dynamisme dont les télécommunications et les TIC ont besoin. Pour cela, le climat des affaires doit rassurer les investisseurs potentiels. En particulier, la réglementation doit favoriser l'émergence des partenariats publics-privés dès lors que l'environnement ne permet pas au secteur privé d'investir seul. Nous espérons que le PPP FAS Congo Sokoff servira d'exemple pour tous les partenariats futurs dans le secteur des télécoms mais aussi dans d'autres secteurs.
Actualité internationale.
Le cyclone dénommé Freddy a tué 73 personnes au Mozambique, 17 à Madagascar et désormais 326 au Malawi, pays les plus meurtris qui compte également plus de 180 000 déplacés. D'après un dernier bilan publié jeudi soir, le président du Malawi a réitéré son appel à l'aide. Le cyclone Freddy a fait plus de 400 morts en Afrique australe, dont la grande majorité au Malawi, où le bilan s'est encore aggravé hier soir, l'espoir de retrouver des survivants devenant de plus en plus minces. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.